Écho de la bonne nouvelle. Écho de la bonne nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Avant que la porte du ciel soit fermée. Un prédicateur de l'Évangile demandait à ses auditeurs : savez-vous quel jour aura lieu la réunion de prière la plus nombreuse, la plus insistante ? Il donnait la réponse suivante : le Seigneur Jésus va enlever au ciel les vrais croyants, ceux qui se prétendent chrétiens sans avoir mis vraiment leur confiance en Jésus-Christ resteront sur la terre. Et nous pouvons nous les représenter, se retrouvant ensemble pour constater avec épouvante, comme les vierges folles de la parabole de Matthieu chapitre 25 versets 1 à 13, qu'ils se trouvent devant une porte fermée, la porte du ciel. Ils s'écrieront « Seigneur, ouvre-nous !» mais recevront alors la réponse terrible « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. » Quel désespoir s'emparera de tous ces gens, car ils sauront qu'ils sont perdus pour toujours. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu chercher ceux qu'il a rachetés par son sang. Mais il peut venir à tout moment, aujourd'hui comme dans 6 mois, la nuit comme le jour. C'est donc encore temps de proclamer que Dieu aime les humains. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, exprès pour être la rançon pour leurs péchés. Alors, comme moi, confessez vos péchés dans une prière vraie et sincère et acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur. Le pardon que Dieu vous offre est gratuit. Avec son pardon, il vous donne le droit de vous considérer comme ses enfants destinés à aller au ciel auprès de Jésus. Jésus est le seul chemin pour aller au ciel. Sans lui, pas de pardon, pas de salut, pas de vie éternelle, pas de paradis. La fréquentation de l'église, le chant des cantiques, ne rendent pas Dieu favorable et n'ouvrent pas la porte du ciel. Quand Jésus viendra chercher ses rachetés, ce sera le jour le plus merveilleux pour eux. Ils entreront au ciel où il n'y a plus ni soucis, ni peine, ni cris, ni larmes, ni deuil. Là, tout sera gloire, amour, paix, joie. Pour tous ceux qui auront méprisé le salut offert gratuitement par Jésus, la porte du ciel sera fermée pour toujours. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Jésus vous invite à croire en lui. Jésus est vivant. Après sa mort à la croix, Jésus est placé dans une sorte de grotte taillée dans le rocher. L'ouverture est fermée par une très grande et lourde pierre. Il ressuscite le dimanche matin, exactement comme il l'a annoncé à ses disciples. Afin que tout le monde voie bien que Jésus n'est pas dans la tombe, un ange vient, roule la pierre et ferme la tombe et s'assied dessus. Jésus ressuscité reste pendant 40 jours avec ses apôtres et d'autres disciples. Il leur parle encore du royaume de Dieu et leur confie la mission de prêcher l'évangile dans tout le monde. À la fin des 40 jours, il monte au ciel en leur présence, puis il disparaît dans un nuage. Il s'assied en vainqueur à la droite de Dieu, oui, en vainqueur, car il a parfaitement accompli l'œuvre de la rédemption en faveur de tous ceux qui croiront en lui. Que fait le Seigneur Jésus dans le ciel? Il n'abandonne ni n'oublie aucun de ceux pour lesquels il est mort sur la croix, car il les aime toujours. Puisqu'il est aussi Dieu, il voit ses rachetés, il connaît leurs souffrances, il connaît leurs pensées et leurs sentiments, il entend leurs prières. Il sait ce dont chacun a besoin pour être fortifié, encouragé, gardé, délivré. Il intercède pour chaque racheté avec sagesse. Puisqu'il a lui-même vécu ici-bas et qu'il y a tant souffert, il comprend leurs circonstances terrestres difficiles. Quel privilège de savoir le Seigneur Jésus vivant, toujours pour nous et jamais contre nous. Il nous aime éternellement. Lire Romains chapitre 8, versets 34 et 35. Les sectes de perdition. Pour égarer les croyants fidèles, le diable utilise des hommes pour former des sectes. Ces faux apôtres, ces ouvriers trompeurs, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, se font passer pour des apôtres ou des messagers de Christ. Cela n'a rien d'étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de Dieu. Mais ils subiront le jugement que méritent leurs œuvres. Lire 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Comment serons-nous gardés des pièges du diable, des faux prédicateurs, de leurs enseignements pernicieux? Comment résisterons-nous à ceux que le diable utilise pour détruire et diviser les témoins du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur nous dit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Quels fruits portent ces personnages souvent très influents? Montrent-ils un grand respect et un grand amour pour le Seigneur Jésus, pour son enseignement? Sont-ils très humbles, doux, patients, vrais, généreux, justes, honnêtes vis-à-vis de l'argent? Montrent-ils du dévouement aux autres? Pour discerner les mauvais enseignements d'un homme, rien d'aussi capital que de soi-même beaucoup aimer le Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la vérité viennent de lui, alors soyons imprégnés de sa grâce et de sa vérité. Lorsqu'un chrétien est soumis au Seigneur, il se laisse diriger par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit le conduit dans toute la vérité. Veillons et prions, car le diable et ceux qui sont à son service cherchent à détruire le témoignage que nous rendons à l'amour et à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Résistons aux efforts du diable par un amour fervent et une consécration totale à notre Seigneur Jésus-Christ. Thank you. Inspiration et autorité des Saintes Écritures. La totalité de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est inspirée de Dieu. C'est ce qui la distingue essentiellement de tous les autres livres que les hommes ont écrits, y compris les livres religieux. Cette inspiration lui donne l'autorité de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Il suffit de la lire avec honnêteté pour ressentir cette autorité. Cette inspiration de Dieu est un miracle. Comme elle parle à la conscience des hommes, elle dérange. Parce qu'elle dit que Dieu doit être respecté, aimé, obéi, servi, adoré, les hommes ont cherché à la contester, mais ils ne peuvent entamer son autorité. La parole de Dieu est notre unique source de connaissance de notre Dieu Sauveur et de ses plans. Elle est lumineuse pour les chrétiens nés de nouveau. Nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui ont été librement données par Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Dieu, par la Bible, nous dit et nous révèle ce qu'il est, ce qu'il a fait et fera. La Bible nous enseigne que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Un vrai mystère de l'amour divin. La Bible nous présente toutes les doctrines qui nous sont nécessaires pour vivre. Seules les doctrines issues de la Bible méritent notre attention. Une doctrine établie par les Écritures tire toute sa force de l'autorité de Dieu qui a inspiré la Bible. La bonne interprétation de la Bible est celle qui glorifie Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand nous lisons les Saintes Écritures, faisons-le avec beaucoup d'humilité pour recevoir de Dieu ses pensées profondes. De plus, Dieu révèle sa volonté seulement à ceux qui sont décidés à la mettre en pratique. Quelle reconnaissance nous devrions exprimer à Dieu de pouvoir lire son livre qui nous révèle sa grandeur et ses plans glorieux de grâce et d'amour. Quelle persévérance nous devrions avoir pour lire et nous approprier par la foi la vérité que Dieu nous révèle. Quand tu lis la Bible. 1. Avant de commencer ta lecture, prie. Demande à Dieu de te parler et de t'aider par son esprit à comprendre ce que tu vas lire. 2. Lis attentivement dans ta Bible un texte suivi jour par jour. Essaie de bien en comprendre le sens. 3. Après avoir lu, réfléchis et pose-toi des questions simples. Petit a. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, sur le Seigneur Jésus, sur le Saint-Esprit? Petit b. Y a-t-il un bon exemple à suivre? Un ordre de Dieu? Petit c. Y a-t-il un mauvais exemple à éviter? Un avertissement de Dieu? Petit d. Y a-t-il une promesse? Un encouragement pour moi? 4. Choisis un verset ou une partie de verset qui aujourd'hui te parle particulièrement. Pour mieux le retenir, copie-le dans un carnet à toi. 5. Pour terminer, et en rapport avec ce que tu auras lu, adresse-toi au Seigneur et dis-lui ce qui sort de ton cœur. Louange, reconnaissance, demande particulière pour toi et pour les autres. sida. Depuis plusieurs années, la maladie du sida fait des ravages. Elle est un fléau pour l'Afrique. Nous devons chercher la cause de cette épidémie dans le non-respect des règles morales que Dieu a établies depuis le début de la création. Le Seigneur Jésus les a rappelées ainsi. Au commencement de la création, Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Ceux donc que Dieu a unis, que l'homme ne le sépare pas. Marc chapitre 10, versets 6 à 9. Ces paroles du Seigneur condamnent formellement le péché de fornication, relation sexuelle hors mariage. Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Hébreux chapitre 13, verset 4. La maladie du sida comporte deux phases. Première phase, elle s'appelle la séropositivité. Le virus est dans le sang, mais il ne se développe pas encore. Le virus dort, mais reste dangereux et transmissible. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont séropositives, pourtant elles sont contagieuses. On peut rester séropositif quelques années. Deuxième phase. Pour une cause encore inconnue, le virus devient très actif. La maladie du sida se développe et évolue. En quelques mois, le malade meurt dans de grandes souffrances. Conséquences de la maladie du sida. C'est souvent le couple qui est séropositif, car l'un des conjoints a infecté l'autre. Beaucoup de couples meurent du sida. Leurs enfants deviennent orphelins. Pour eux, c'est la misère, surtout s'ils n'ont pas une autre famille pour les accueillir. Il arrive aussi que des enfants sont contaminés par le sang des parents. C'est dramatique. Pour éviter d'être contaminé, obéir impérativement à l'ordre de Dieu, notre Créateur. Le mari doit rester fidèle à sa femme et la femme à son mari. Les jeunes, garçons ou filles, doivent rester vierges jusqu'au mariage. Ne pas toucher le sang d'une autre personne pour ne pas être contaminé. Une autre maladie. Le sida fait mourir le corps. C'est grave. La maladie du péché entraîne le corps et l'âme dans l'enfer. Matthieu chapitre 10, verset 28. Le salaire du péché, c'est la seconde mort, autrement dit, la perdition éternelle. Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Il est écrit dans la Bible, « Après la mort, le jugement. » Hébreux, chapitre 10, verset 31. Pour notre maladie du péché, Dieu, dans son grand amour, offre un remède gratuit. Jésus-Christ, son Fils, est venu sur la terre pour porter le jugement que méritent nos nombreux péchés. Pour en bénéficier, pour que nos péchés soient effacés, un seul chemin, venir à Jésus, nous repentir, demander sa grâce. Il pardonne et sauve celui qui croit. Quel amour!
Thank you.
C'était Écho de la Bonne Nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Voici notre adresse. Écho de la Bonne Nouvelle. 01 Boîte postale 832 Lomé, Togo. Courriel maison des traités @yahoo.fr.